Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Lorgnette. C'est par un froid normal finalement pour un mois de janvier que j'accueille mon invité, même si tout le monde pense que ce sont des températures dignes du nord de la Suède que nous avons en ce moment. Mais rappelez-vous, il y a 10, 12, 15 ans même, ces périodes d'hiver classiques ne choquaient personne puisque c'était la norme. Mais après 7 années où les températures hivernales n'ont pas été très hivernales, et bien forcément on pense traverser un froid polaire. La faute à qui ? Et bien évidemment au dérèglement climatique, et par extension au capitalisme. Alors pour parler météo et climat, et revenir sur cette année climatique 2025, quoi de mieux que de faire revenir Aurélien Charron de l'association Météo Centre dans nos studios. C'est parti donc pour cette heure de lorgnette. Et bonjour Aurélien.
Bonjour.
Belle année à toi.
Belle année à toi également.
J'en profite donc pour passer tous mes vœux donc pour cette année 2026 à nos auditeurs et nos auditrices qui elles restent fidèles à Studio Zef et ses émissions ou de musique à sa programmation. On espère qu'elle vous plaît et que vous nous suivez toujours autant. Donc c'est un rendez-vous annuel que je vous propose maintenant puisque Aurélien c'est ta quatrième venue pour parler voilà de cette année météorologique qu'on a traversée. Et alors si on le rappelle aussi à chaque fois que tu viens, il ne faut pas confondre météo et climat. Une année, le recul d'une année de météo et de tendances nous indique aussi des directions, des tendances climatiques que nous sommes en train de prendre à l'échelle d'une société et même d'une humanité, pourrait-on dire.
Exactement.
Est-ce que rapidement, parce que maintenant les auditeurs et les auditrices te connaissent bien, tu peux rappeler l'association Météo Centre.
Météo Centre, c'est une association au niveau régional qui étudie la météo et le climat de la région, mais aussi en extrapolant au niveau français et même mondial, hein, parce qu'on a, un climatologue dans l'association qui fait aussi des études plus poussées. Et on peut s'appuyer aujourd'hui sur une communauté qui dépasse les 100 000 personnes sur les réseaux sociaux. Donc ça commence à peser, hein,
ouais.
Même si on en dégage beaucoup, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent toujours pas et qui virent toujours dans la conspiration.
Ouais.
Mais voilà, on a une très grosse communauté qui nous apporte énormément, aussi bien en termes d'informations que de médias pour...
Que d'images sur place,
exactement,
ouais, de témoignages.
Les témoignages sont très très précieux et c'est cette communauté-là qu'on peut remercier aussi aujourd'hui. Et puis après, on peut s'appuyer aussi sur un gros réseau de webcams et de stations météo qu'on gère nous-mêmes et qui apportent des données fiables.
Tu devais venir clôturer la lorgnette de décembre.
Exactement.
Voilà, tu devais venir en décembre pour faire pour dresser ce bilan de l'année climatique 2025. Mais voilà, un petit problème de voiture t'en a empêché. T'es là pour cette première finalement de 2026.
Oui.
Mais finalement, c'est pas plus mal puisque les 15 derniers jours de décembre, on n'aurait pas pu en parler alors qu'ils sont quand même assez intéressants à analyser.
Ils sont très intéressants.
Ouais. On va en parler, mais si tu le veux bien, évidemment, on va prendre les choses dans l'ordre un peu chronologique. On s'était laissé l'année dernière, en décembre 2024, ta dernière venue, sur un automne et un début d'hiver très humide, alors pas forcément mouillé. On se rappelle de journées de brouillard continu,
ouais,
qui s'était déversé sur la région centre et particulièrement je crois sur Blois, avec donc des chaleurs assez des températures assez douces et donc vraiment très très peu ensoleillées. On revient donc 12 mois en arrière sur ce début d'hiver 2025. Avec, je crois, moi, dans mes souvenirs, et puis si j'en crois les relevés de Météo France et puis peut-être les tiens, une espèce de continuité de cet automne qui s'était étiré comme ça, sans fin.
Oui, en fait, on a commencé l'année 2025 par beaucoup de pluie, en fait. On a quitté l'année 2024, on se rappelle, avec des inondations quand même assez majeures sur la vallée du Loir.
Ouais.
Et on a repris sur le mois de janvier, février, surtout janvier, qui était particulièrement humide. Après voilà, on n'est pas, on n'explose pas les scores, loin de là. Mais voilà, ça a permis de bien arroser, de bien remplir les nappes phréatiques pour le reste de la saison, ce qui est quand même plutôt agréable parce que quand on part avec des nappes phréatiques qui sont pleines l'été, ça permet de se poser un peu plus et notamment au niveau de l'agriculture qui est quand même très tendue en ce moment de se dire voilà, au moins on peut irriguer les récoltes sans être coincé par des arrêtés préfectoraux, donc c'était quand même plutôt agréable.
Donc au 1er janvier, c'est une date un peu symbolique évidemment, mais effectivement les réserves dans les nappes, alors en région centre, mais surtout à l'échelle nationale, étaient bonnes.
Voilà, à part les Pyrénées-Orientales qui ont un déficit de pluviométrie depuis plusieurs années.
Ouais, c'est presque structurel.
Ça devient vraiment problématique. Mais ouais. Nous, sur la région et même en France, on a fini l'hiver avec des nappes bien remplies et de quoi bien entamer le printemps et l'été. Oui.
Avec, j'ai donc relevé cette statistique importante, 60 jours considérés comme peu ensoleillés sur Blois, ce qui correspond sur un trimestre à deux mois sur 90 jours. on avait, je le disais, l'automne avait été particulièrement gris, et notamment sur Blois. L'hiver, là aussi, était.
Oh, il y a une vraie continuité là-dessus. Et voilà, on n'a pas eu un hiver très ensoleillé. Les peaux étaient bien pâles à la sortie de l'hiver, et ça, c'est un peu. On a pu profiter d'un peu de soleil plus tard, mais c'est vrai que sur ces mois d'hiver, ça a été quand même très gris. Ouais.
On a relevé 57, donc 60 jours pour Blois, mais 57 pour Tours ou 59 pour Orléans. Donc c'est vraiment généralisé sur le Centre-Val de Loire et même peut-être sur la moitié nord, contrairement où des jours très ensoleillés sur Blois, il y en a eu 4 en 90 jours, 5 pour Tours et 6 pour Chartres. Donc on est vraiment sur un hiver doux mais
maigri.
Ouais, tout à fait. Avec ça, et ça c'est aussi quand même, alors on sort de la région centre, mais un problème, j'imagine, un faible enneigement qui a eu lieu en montagne, notamment les Pyrénées ont eu un vrai déficit d'enneigement, et on sait que la neige a des vertus climatiques.
Ça c'est pareil, ça devient structurel, notamment sur les Pyrénées, le problème de l'enneigement, hein, les Pyrénées orientales n'ont plus d'eau, donc déjà toute la partie orientale des Pyrénées entre Andorre et la Méditerranée commence à être structurellement en déficit de neige, mais ça c'est tous les ans, et même la partie entre Hendaye et Andorre, c'est pareil, commence à peiner au niveau neige. Mais plus généralement, on se rend compte là que ça fait deux années de suite où on a un mois de novembre où on a un net rafraîchissement, beaucoup de neige qui tombe sur les massifs alpins, et ensuite un gros redoux qui commence au mois de décembre et qui fait fondre en fait tout le massif neigeux, et on se retrouve pour les vacances d'hiver avec très peu de neige en fait.
D'accord, donc la neige arrive assez normalement en novembre sur les massifs, elles font là dans une quinzaine de jours, plus tard.
Ouais, c'est ça, une semaine en fait, toute la neige qui était tombée sur la fin 2025, on a eu quand même un très bel enneigement au mois de novembre des massifs alpins, avec des fois plus d'un mètre de neige sur des belles stations, donc c'était c'est super. Et puis cinq jours après, il restait 20 cm et puis beaucoup de cailloux, donc beaucoup moins agréable pour les massifs et notamment pour les stations.
Ouais. Je te tends peut-être un piège, il y a des Jeux Olympiques qui commencent dans deux mois sur le massif alpin, alors elles sont en Italie, tu sais où en est l'enneigement sur ces massifs.
J'ai envie de dire vive les canons à neige.
Ouais. Oui, ça fait longtemps que notamment les grands événements sportifs d'hiver s'en servent.
Ils sécurisent comme ça avec les canons à neige, mais là l'enneigement dans les Alpes n'est pas fameux, c'est pas... C'est vraiment pas excellent. Il va s'améliorer un petit peu les prochains jours, mais actuellement il y a de la neige, mais c'est pas transcendant quoi.
Donc là on voit avec cette fin d'automne 2024 et début d'hiver quelque chose qui s'est étiré dans le temps très long, d'un gris avec des températures assez douces, alors pas forcément spectaculairement au-dessus des normales.
Non.
Malgré tout, il y a quand même une tendance d'un automne qui s'étire à n'en plus finir, non?
Oui, c'est ça, un automne qui s'est tiré sur l'hiver en restant encore une fois doux et pluvieux.
Ouais.
On ressent plutôt dans les normales au niveau température, mais voilà, très, très pluvieux et très humide. Et après, on arrive sur le printemps qui, lui, a été beaucoup plus instable. Et puis après, mois de juin ou même dès fin mai, où on a commencé à avoir des pics de chaleur.
À l'échelle régionale, c'est l'hiver. Alors l'hiver, c'est décembre, janvier, février pour Météo France. Donc des températures, effectivement, sur le centre Val-de-Loire, qui, je crois, était 0,5 au-dessus de la moyenne. Donc on est dans une normale.
On a un petit peu au-dessus de la normale, mais ça reste pas, pas non plus extraordinaire. On rentre, j'ai presque envie de dire, on rentre dans la marge tolérable, on va dire.
Okay. Avec un excédent de pluie qui a été relevé à plus 7%, donc pareil, donc bien humide, et effectivement, comme on le disait, l'hydrométrie, l'hydrologie était plutôt bonne en cette fin d'hiver.
Bah, si je prends l'exemple de Blois, par exemple, sur Blois, on a eu une pluviométrie où on a eu plus 121% de pluie au mois de janvier et plus 42% au mois de février. Donc oui, on est vraiment, on était vraiment encore une fois dans de la grisaille très humide.
Et on voit aussi que des différences, des disparités énormes se sont créées entre le nord et le sud de la France, hein, avec des températures, donc je le disais pour le centre-Val de Loire, qui était dans une normale, on va dire, même s'il y a un léger excédent.
On était dans le centre, oui.
Ouais, on était déjà, c'est ça, on était déjà à plus 1,5 degré sur une moyenne dans le sud de la France.
Ouais, puis avec une Méditerranée qui de toute manière est de plus en plus chaude. Une grosse masse d'eau chaude à côté de vous dit des températures logiquement qui restent plus élevées parce que la nuit, quand il n'y a plus de soleil, il vous reste une énorme bouillotte qui fait plusieurs dizaines de milliards de mètres cubes d'eau, j'ai envie de dire, et qui va redistribuer la chaleur autour d'elle. Et c'est pour ça que le pourtour méditerranéen aujourd'hui est vraiment sur un climat qui se rapproche du climat tropical.
On aura l'occasion de revenir sur ces températures extrêmement chaudes, puisque ça n'aura échappé à personne, on va finir par y venir. L'année a été chaude et on va glisser vers le printemps, donc la période mars-mai, puisque là aussi des statistiques sont assez effrayantes. On a tendance à l'oublier, c'est déjà parfois très loin pour nous, mais on a eu en 2025 le troisième printemps le plus chaud jamais enregistré.
C'est simple en fait, le mois d'avril c'était 2,4 degrés de plus en moyenne par exemple sur Blois, enfin on est autour des plus de 2 degrés sur la région centre pour le mois d'avril, donc oui c'est un mois d'avril qui a été exceptionnellement doux, où on a pu dès début avril sortir en t-shirt sans trop de difficultés, et on a fini sur le mois de mai avec un mois de mai en apothéose avec plus des records à plus de 30 degrés le 30 mai, une poussée de chaleur sur la région, mais généralement sur toute la France.
Sur toute la France.
Et on a eu presque notre première canicule dès le mois de mai, en fait.
Justement, tu en parles. Est-ce que les associations comme la vôtre ou Météo France a considéré cet épisode du mois de mai, on va revenir sur le début du printemps, mais parlons de cet épisode, comme une canicule? Est-ce que officiellement ça a été considéré comme une canicule?
C'est vrai que c'est loin, mais...
Ouais.
Plus. Je crois pas que ça a été considéré comme une canicule, parce que l'avantage, c'est que les nuits restaient relativement fraîches. Et le fait qu'une canicule devienne une canicule, c'est notamment des nuits chaudes,
évidemment,
notre région.
On va y revenir, puisque comme je le disais, il y en a eu d'autres, des canicules. Pareil, dans ces chiffres qu'il est, je crois, important de rappeler, 9 des 10 printemps les plus chauds enregistrés depuis la prise en compte des relevés de Météo France le sont depuis l'année 2000, depuis l'an 2000, donc ce troisième printemps le plus chaud en fait évidemment partie. Donc un printemps sec et doux avec un excédent de soleil de plus 20% sur tout le nord de la Loire. Et en région centre, donc un printemps très sec, puisque j'ai noté 30% de précipitations en moins, c'est énorme, pour une région comme la nôtre au printemps.
Dès qu'on a eu de l'ensoleillement, en fait, on est resté sur des situations de blocage anticyclonique, donc avec des poussées de chaleur en fait, et très peu de pluie qui peinait à arriver sur la France. Ouais.
J'ai noté moins 60% de précipitations en moins dans les Hauts-de-France, moins 50% sur le Grand Est. C'est quand même énorme ce qui s'est passé, effectivement, donc sur ce mois d'avril et notamment sur ce mois de mai.
C'était très inquiétant, et en plus c'était dommageable pour l'agriculture, parce que c'est la période où les semences lèvent, en fait, et on s'est retrouvé à devoir arroser dès le mois d'avril pour permettre au blé de tout simplement pousser, parce que les terrains étaient très très secs, et là pour le coup, le fait qu'il y ait eu des nappes phréatiques pleines nous a permis de pouvoir arroser, mais si on a vu un hiver sec avant, ça aurait été vraiment la catastrophe. Ouais.
Encore une fois, on parle de disparité entre le nord et le sud de la France. J'ai noté que la région PACA avait, pendant que nous étions en déficit, avait bénéficié de 45% de pluie en plus par rapport à l'heure normale de printemps.
Donc c'est ça, exactement.
On voit des échanges de procédés, de masse d'air, de pluie qui font le yo-yo. C'est assez incroyable quand même.
Et c'est souvent ce qu'il faut se dire. Là, en ce moment... Quand il fait généralement froid en Europe, il va faire soit très très doux, sur la partie asiatique, soit très doux aux États-Unis. Mm-hmm. Et en fait, voilà, on a toujours ces disparités. Alors, au niveau de la France, c'est vrai que quand il va faire beau dans le nord, généralement, il peut faire plus mauvais dans le sud parce que bah, du coup, le système dépressionnaire est plus orienté sur la péninsule ibérique et du coup, va arroser la partie des côtes méditerranéennes. Pendant ce temps-là, bah, la France, le nord de la France va être plutôt protégé par un anticyclone et va profiter du soleil. Et des fois, ça s'inverse. On a un système plus classique avec une dépression sur l'Irlande ou sur le Royaume-Uni qui va arroser le nord de la France et plutôt des masses d'air plus sèches sur la Méditerranée qui vont donner du soleil.
On continue à détricoter tout ce printemps. Donc une première alerte de chaleur fin avril. J'ai noté que les températures avaient pu être relevées à 10%, à chaque fois je dis 10%, 10 degrés au-dessus des normales. On a relevé notamment le 1er mai un 29,4 à Paris et un 30 degrés à Strasbourg, ce qui n'était, je crois, jamais arrivé.
27,7 degrés le 30 avril à Blois. Donc on est sur des températures qui sont déjà sur un mois de juillet quasiment.
Oui, tout à fait. Et donc cette fameuse deuxième alerte, on en parlait avec ces deux jours de mai où il a fait très chaud, les 29 et 30. Et là, à ce moment-là, alors pareil, t'as peut-être d'autres chiffres, mais donc un 31,9 à Blois le 30 mai et un 32,8 à Tours et un 32,6 au Mans. Donc voilà, pour rester
C'était très généralisé sur toute la région et même sur toute la France. Hein. Ouais. C'était une vague qui était quand même très uniforme, où on a eu des fortes températures sur toute la France. Et c'était ça aussi qui était remarquable, c'est que dès le mois de mai, alors certes on était le dernier jour du mois de mai donc on peut jouer un peu, mais quand même dès le mois de mai ou début juin au choix, on avait des canicules que, si on se rappelle il y a 10-15 ans, c'était des canicules qu'on avait au mois de juillet août.
Un mois de mai avait-il déjà été aussi chaud, Aurélien?
Alors, aussi chaud en moyenne, c'est une très bonne question, je n'ai pas la réponse. Ouais. Par contre, au niveau des records de température, oui, le 30 mai, plein de records de température absolue sur un mois de mai ont été battus. Et ce qui en fait du coup de ce mois de mai 2025 un mois de mai très remarquable, c'est que justement, on a explosé plein de records de température sur un mois de mai, sur le dernier jour du mois de mai.
Il a donc fait très chaud en ce mois de mai 2025, on s'en souvient, et on va donc s'écouter un morceau qui nous... rappelle que des fois il fait chaud.
Air ain't moving, not a hint of a breeze. Lord, it must be 100 degrees. Bad part is it's only 10 o'clock. Man, it's hot. Think I'll go down to the store and get a cold drink. Scald my legs on that black vinyl seat. You can see the heat rising off the parking lot. It's flat out hot. It's hot, and I ain't just talking. Saw a dog chasing a cat, and they were both walking. They'll blame it on El Nino, but it's not. It's just plain old kids on a blacktop road, tippy-toeing like they're walking on coals. Little feet's frying like tater tots. Have mercy, it's hot. Talk about dry, oh man, it ain't rained a lick. I caught a catfish this morning. It was covered in ticks. September's all the hope we got. And I'm here to tell you, it's hot. It's hot, and I ain't just talking. Saw a dog chasing a cat. They were both walking. They'll blame it on El Nino. Yeah, but it's not. We know it's not. No, it's just plain old. Hotter than a biscuit in a cast iron skillet. It's plain old. Hot as Cindy Crawford in a cedarwood sauna. It's plain oh, hot.
J'ai vu un chien chasser un chat, mais ils étaient tous les deux en train de marcher puisqu'il faisait trop chaud. Voici un petit morceau de ces paroles de Mark Chestnut. Le morceau s'appelait Hot, tout simplement. Je suis toujours en compagnie d'Aurélien Charron de l'association Météo Centre. On parlait donc de ce mois de mai qui avait commencé, commencé très chaud et qui avait terminé très
chaud. En bouillotte,
voilà. Ouais, en bouillotte. Vous avez eu chaud en mai. Eh bien, vous n'aviez encore rien vu. L'été arrivait et il était pas content, comme on pourrait dire.
Ah oui.
Puisqu'on a inutile de le rappeler, là, pour le coup, je pense que c'est très clair dans les mémoires.
Ça va rester justement dans les mémoires, Loire Chérienne, je pense, pendant encore pas mal d'années.
Deux épisodes très clairs ouais. De canicule, dont un en juin qui a été remarquable par sa précocité. Ouais. Puisque, quoi, une canicule en juin, il n'y en a pas eu souvent, je pense, dans l'histoire des relevés météorologiques.
Et qui s'est surtout terminé par un épisode orageux d'une violence. Réelle violence, notamment sur le Loir-et-Cher, entre Saint-Aignan et Mer, voire au-delà, et qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts sur la végétation, mais aussi sur le bâti, et qui a traumatisé, je pense, beaucoup, beaucoup de monde.
Le mois de juin a été supérieur au normal de 3,3 degrés à l'échelle nationale.
Bon, voilà, on a
explosé
des stats. En plus de ça, on s'est retrouvé avec beaucoup, beaucoup de feux de végétation. Là, c'est ma casquette aussi pompier qui parle, parce que j'en ai vu quelques-uns, notamment le 25 juin, dans la journée. Ouais. Et c'était compliqué pour les agriculteurs sur ces jours-là de faire les moissons alors qu'ils étaient en plein dedans, parce que le risque d'incendie sur la végétation était très, très élevé avec cette chaleur étouffante. Et tout a été soufflé derrière, mais oui, voilà, c'était vraiment c'est la deuxième grosse vague de chaleur qui était en mode canicule, mais qui reste précoce. Encore une fois, il n'y a rien de normal déjà à avoir une canicule en France. C'est quelque chose qui devrait rentrer dans l'exceptionnel. Maintenant, si c'est pas tous les ans ou voire plusieurs fois par an, c'est presque tous les ans. Donc voilà. Et c'est surtout que c'est des épisodes de chaleur qui arrivent de plus en plus tôt dans l'année et de manière des fois de plus en plus extrême, et qui sont ensuite sur des transitions avec une période plus respirable, à te dire, mais qui sont avec une transition de plus en plus violente via des phénomènes orageux qui sont remarquables.
L'orage était directement lié à la canicule ?
Évidemment, en fait, on avait une masse d'air bouillante sur la France, et une masse d'air froide est arrivée, et quand les deux se sont rencontrés, ça a généré beaucoup d'instabilité, et cette instabilité-là a été d'une rare violence sur la région, mais pas que sur la région, parce que moi, pour le coup, j'étais en Normandie le 25 au soir, et j'ai vu ce qu'on appelle un Arcus qui était digne des vaisseaux d'Independence Day au-dessus de Rouen. Donc voilà, il y en a eu un aussi sur la région centre, enfin il y en a même eu plusieurs, et voilà, c'est signe que ces orages-là sont généralement, quand vous voyez un Arcus, quand cet orage ressemble justement à une énorme soucoupe volante, j'ai envie de dire abritez-vous, parce que C'est signe de très forte rafale de vent et d'une zone souvent grilligène dedans. Et voilà, ça veut dire abritez-vous tout simplement. Profitez du spectacle, mais derrière une vitre.
Donc les températures par rapport au normal de juin étaient spectaculaires. Je cite celles de juillet et d'août pour qu'on se fasse une idée. Elles ont été moins spectaculaires, mais tout aussi, enfin au-dessus des normales. 0,9 degrés au-dessus des normales pour juillet et plus 1,4 degré pour août. Mine de rien, ça dessine quand même des étés qui sont chauds. Avec cette statistique également qui est qu'on a eu...
Et pourtant, on peut se remémorer, notamment sur les réseaux sociaux, le nombre de personnes qui ont dit « Ouais, le réchauffement climatique, c'est bidon, l'été est pourri, etc. » Alors que non, l'été n'était pas pourri, il était juste à peu près normal, voire légèrement au-dessus des normes de saison qui ont été quand même basées sur les 30 dernières années, 90-2020. Donc voilà, on ne prend pas ces normes, ça ne sort pas d'un chapeau de magicien pour vous pourrir l'existence. Non, c'est des statistiques. La météo est aussi une discipline de probabilité, et dans les probabilités il y a des statistiques, et tout simplement là en fait on a eu un été, si on enlève le mois de juin, à peu près normal. J'ai même pas envie de dire normal, j'ai juste envie de dire à peu près normal, c'est-à-dire avec suffisamment de pluie, avec suffisamment de soleil, mais sans réels excès, va-t-on dire. Mais voilà, c'était quand même un été chaud par rapport à ce qu'on avait dans les années des années 90 à 2020.
Et sans oublier qu'on a quand même eu une canicule classique, enfin classique, je sais pas, voilà, tu le disais,
oui,
une canicule qui n'est pas classique, ça devrait rester dans l'exceptionnel, mais le mois d'août a aussi vécu une autre canicule. Et avec donc cette donnée qui est que là nous avons été dans un quatrième été consécutif au-dessus des normales, donc on voit qu'il y a quelque chose, même si on se rappelle que l'été 2024 n'avait pas été formidable, on se souvient, on a tous râlé après cet été très humide, il n'empêche qu'il était au-dessus en termes de température, au-dessus des normales de saison.
Et si on prend la France, le nombre de mois qui ont été au-dessus des normales de saison en France sur les deux dernières années, sur 48 mois, il y en a eu peut-être un, je crois que c'est septembre 2025 ou septembre 2024, qui a été en dessous des normales de saison. C'est-à-dire que tous les autres ont été dans le rouge, sauf un. Et encore une fois, pour non pas mettre en lumière les discours des négationnistes, parce que j'appelle ça des négationnistes à
n'ayons pas peur des mots.
C'est simple, en fait, ils vont mettre le doigt sur le seul mois qui va être frais ou sur la seule donnée météo qui va sortir des statistiques, mais les statistiques, en attendant, elles ne se trompent pas. Bizarrement, on a tendance à moins être en désaccord avec les chiffres du chômage quand ils sortent et quand on vous dit qu'il y a plus 1% de chômage, mais par contre, quand on vous dit qu'il fait plus 2 ou plus 3 degrés, tout de suite, ça râle un peu plus et vous êtes moins d'accord parce que c'est simple, votre météo... C'est-à-dire la météo, c'est l'événement local, c'est ce qui se passe localement dans votre petit village, n'est pas forcément le reflet de ce qui va se passer dans le monde. Votre petit village qui fait quelques kilomètres carrés, comparé à la taille de la planète, c'est un grain de sable sur la plage. Donc pensez toujours à vous remettre en question par rapport au reste de l'humanité, au reste de la planète. Encore une fois, voilà, c'est pas parce qu'on a eu un été à peu près normal que ça a été le cas partout ailleurs dans le monde. Dans le monde, on a eu un été encore une fois étouffant au niveau mondial, avec encore une fois un océan Pacifique qui était bouillant, un océan Atlantique qui était bouillant, une Méditerranée qui était très très chaude. Et tout ça, en fait, on va en parler, je pense, plutôt sur la partie automne, mois d'août, automne. Mais tout ça, en fait, c'est de l'accumulation d'énergie qui a à un moment donné besoin de se libérer et qui va généralement se libérer sur le mois d'automne.
Parlons toujours un petit peu de cet été. J'ai noté que 80% du territoire français avait franchi au moins une fois le seuil des 35 degrés. Et 20% du territoire français avait, durant cet été, avait franchi le seuil des 40 degrés, dont, et là je reviens vers toi Aurélien, puisque le Centre-Val de Loire n'a pas été épargné par les 40 degrés. Oui. J'ai noté que le sud du Cher et l'Indre avaient été...
C'est ça, exactement, avaient été touchés. Alors j'ai plus les températures exactes, mais oui, on a été entre 40 et 41 degrés... localement.
Donc, en dessous de Bourges, j'imagine, à peu près, plus ou moins. Donc il y a eu des températures qui ont franchi les 40 degrés, et ça, en Centre-Val de Loire, c'est exceptionnel, j'imagine.
Et ça, avant, c'était exceptionnel, et là, ça le devient de moins en moins, et c'est quasiment tous les ans aujourd'hui qu'on a des communes qui dépassent les 40 degrés à l'ombre, je précise. La température est prise à l'ombre et à l'abri, donc vous vous retrouvez, essayez de vous imaginer sur votre terrasse en plein soleil, et là vous pouvez vous faire cuire un œuf par cette température-là sans problème.
Tu fais bien d'en parler, on va reparler justement de se faire cuire un œuf sur des endroits qui ne sont pas destinés à ça normalement dans quelques minutes. Dernier chiffre, 835 heures cumulées d'ensoleillement à Blois cet été, c'est 25% supérieur au normal. Hein. Donc effectivement, on voit que l'été a été ensoleillé. Il y a eu de la pluie, mais il y a eu. Et puis, alors, ça a été spécifique sur le Loir-et-Cher. Je crois que le Loir-et-Cher a été le département le plus ensoleillé de la région centre. C'est très clair sur une carte de Météo France où le Loir-et-Cher a particulièrement bénéficié d'ensoleillement.
On a eu de la chance, on a eu un peu moins d'orages sur certains jours, des fronts nuageux qui n'ont pas forcément atteint le Loir-et-Cher. Enfin, ça, des fois, ça se joue à pas grand-chose. Hein, et puis, les statistiques font aussi qu'il suffit qu'une partie du département soit vraiment épargnée par la pluie sur quelques jours et les statistiques basculent. Mais en région centre, en général, oui, on a eu un été qui a quand même été plus ensoleillé. Alors, pas autant ensoleillé que certains étés qui ont été exceptionnels, mais qui a été quand même ensoleillé, oui.
Le mercure n'est pas descendu, pour info, et donc là, on parle de cette dernière période de canicule qui a eu lieu fin août. Là, je parle d'une température à Nice, c'est tout à fait différent de notre région.
Mais ça reste en France, oui.
Mais ça reste en France. Le mercure n'est pas descendu en dessous de 28,7 degrés dans la nuit du 12 août.
Encore une fois, on en revient à ce que j'ai dit il y a une dizaine de minutes, la Méditerranée se dirige de plus en plus vers un climat tropical tout simplement, avec des nuits, parce que justement les masses d'eau autour sont très chaudes, des nuits qui ont du mal à se refroidir, à apporter de la fraîcheur en fait, parce que le soleil, la masse d'air qui avant était la nuit rafraîchie par l'eau, ce qui arrive notamment sur la façade atlantique quand vous partez en vacances sur le bord de mer et que vous êtes vraiment très très proche de la mer, vous sentez que la nuit vous respirez, bah ça c'est quelque chose que les personnes de la côte d'Azur vont de moins en moins bénéficier, parce qu'on se retrouve avec une Méditerranée qui approche un climat, qui approche une eau en fait qu'on pourrait retrouver dans les Antilles.
Hein. Aller sur la plage à 23h, c'est plus du tout rafraîchissant pour les Méditerranéens.
Voilà, ça va devenir de moins en moins le cas. En fait, ça dépendra des vents. Et là, on peut revenir aussi sur un épisode qu'il y a eu en Méditerranée cet été où le vent a soufflé d'une telle manière qui fait que les eaux froides des profondeurs sont remontées. Mmh. C'était un vent de terre, donc ça a poussé l'eau de surface bouillante.
Au large.
Et en fait, ça a ramené
l'eau fraîche,
l'eau voire même glaciale. Et ils se sont retrouvés à Marseille avec une eau qui était à 17-18 degrés au lieu de 27 degrés. Donc. Et ça en quelques heures. Donc voilà, ça les a un peu surpris, mais ça n'empêche pas que l'eau de surface est très chaude. Et le problème, c'est que la majorité de la vie est en eau de surface. Et cette vie-là a besoin d'une eau relativement stable. Si vous prenez un aquarium et que vous amusez à mettre de l'eau bouillante tous les 3-4 matins dedans, votre poisson rouge, il ne va pas trop apprécier. C'est à peu près la même chose pour la vie marine. Elle a besoin de quand même d'avoir une température qui ne va pas dans les extrêmes. Parce qu'elle, elle ne peut pas aller se réfugier à l'ombre. Hein. Quand vous êtes dans l'eau et que l'eau est trop chaude, bah, c'est simple, vous mourrez.
Est-ce qu'il y a eu tu peux nous rappeler peut-être avec ta casquette de pompier comme tu le rappelles régulièrement des incendies marquants qui ont été une conséquence directe de cet été caniculaire et spectaculaire?
Sur la région, on n'a pas eu d'incendies, j'ai envie de dire, marquants. On a eu des feux de forêt parce que maintenant là ça devient aussi la norme avec aussi pas mal de feux de récolte aussi. Bah, justement, sur le mois de juin, beaucoup de feux de récolte à cause de cette canicule. Après, par contre, on peut revenir sur ce qu'il y a eu dans l'Aude avec cet incendie qui a été, pareil, d'une extrême puissance, avec une rapidité qui a surpris tout le monde, qui a même surpris des habitants, parce qu'il y a eu des morts. Les personnes ne pensaient pas que ça allait aller aussi vite, ils voulaient rester chez eux pensant que ça allait passer à côté, mais au final c'est pas passé à côté, ça leur a brûlé leur maison avec eux dedans, et là on a vraiment eu un incendie avec tous les superlatifs, un incendie qui a été capable en 24 heures de se déplacer de plusieurs dizaines de kilomètres, qui a brûlé des quantités d'hectares, mais qui sont, j'ai plus les chiffres en tête, mais on est sur un truc qui dépasse largement la taille de la superficie d'un canton du Loir-et-Cher, voire même on est allé sur un cinquième du Loir-et-Cher. Vous imaginez que le feu a parcouru Blois-Vendôme en l'espace d'une journée, grosso modo c'est ce qui s'est passé. C'est très compliqué. au niveau des pompiers pour éteindre le feu, vous avez beau mettre 25 000 canadaires, ça ne l'éteindra pas parce que l'énergie lui-même du feu est entretenue par sa propre puissance. Donc vous pouvez l'arroser comme vous voulez, vous pouvez juste essayer de sauver le bâti et des zones à préserver.
Et évacuer les vies humaines, oui.
Vous pouvez pas arrêter un incendie comme ça, il y avait beaucoup trop de vent et ça c'est vraiment exceptionnel. Ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont aussi traumatisantes pour la population sur place.
Chaque semaine, la Lorgnette vous fait une recommandation, un podcast, une émission, un documentaire à regarder ou à écouter. Cette semaine, comme j'en ai souvent l'habitude, je vous propose un média indépendant en ligne. Un petit extrait d'une émission de Blast.
Souvenez-vous, en 2014, Evelyne Delia présentait un bulletin météo fictif qui anticipait les températures du 18 août 2050.
Et dans l'après-midi, on atteindra ou dépassera encore les 40 degrés, 41 à Agen, 41 à Strasbourg, 40 dans les capitales, 42 pour Lyon et jusqu'à 43 degrés prévus à Nîmes. Alors me direz-vous, tout ceci n'est que fiction pour 2050. Eh bien, ne croyez pas que ce bulletin soit sorti de mon imagination, puisqu'il a été formulé avec beaucoup de sérieux par Météo France.
Depuis, à chaque canicule, ces images sont repartagées sur les réseaux sociaux puisque ces températures alarmantes ont déjà été dépassées plusieurs fois avec plus de 20 ans d'avance. Cette carte ne représente plus notre futur, mais déjà notre présent, de plus en plus invivable.
Canicule.
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 Vague de chaleur
étouffante.
41 degrés.
Quasiment tout le pays au-delà des 35 degrés.
Alors que signifie vraiment cette nouvelle réalité ? Que fait la chaleur à nos corps ? Comment déstabilise-t-elle nos sociétés ? Nous ne sommes pas toutes et tous égaux face à la chaleur. Les canicules exacerbent les inégalités sociales et spatiales. Le sociologue américain Eric Klinenberg le résume en ces mots. Les canicules sont des tueuses silencieuses et invisibles de personnes silencieuses et invisibles. Elles révèlent la précarité des vies dont nous ne voulons généralement rien savoir. Notamment parce qu'elles touchent d'abord les membres les plus vulnérables de toutes les sociétés. Les personnes âgées, les personnes socialement isolées, fragiles. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les personnes les plus exposées aux chaleurs extrêmes sont les travailleurs et travailleuses qui effectuent des métiers manuels et en extérieur, les personnes qui vivent dans de mauvaises conditions, des logements mal isolés, insalubres et qui n'ont pas accès à des possibilités de se rafraîchir, mais aussi les personnes pauvres, sans domicile fixe ou déplacées, exilées. Si la chaleur empêche parfois de travailler, tant il est difficile de se concentrer, elle provoque aussi des accidents du travail. Selon les données de Santé publique France, entre 2018 et 2024, au moins 55 personnes sont mortes dans des accidents du travail liés aux fortes chaleurs en France. Ouvriers du BTP, vendangeurs, intérimaires. L'immense majorité sont des hommes et le nombre de décès est sûrement sous-estimé. Cette année, par exemple, le 30 juin, un ouvrier âgé de 35 ans est décédé d'un arrêt cardio-respiratoire juste après avoir quitté le chantier sur lequel il travaillait à Besançon. Selon les sapeurs-pompiers, il se plaignait de la chaleur depuis le matin. La chaleur déstabilise nos sociétés. La vague de chaleur qu'a connue la France fin juin l'a démontré. Au pic de la chaleur, près de 1300 écoles publiques sur 45 000 ont dû fermer. Ce qui nous a rappelé collectivement que de nombreux établissements scolaires sont des bouilloires thermiques. Et c'est impossible d'étudier quand il fait 40 degrés.
La température dans certaines salles de classe était déjà très élevée.
Nous sommes là, on est à 32 degrés le matin à 9h15. Donc vous imaginez bien qu'en plein après-midi, le thermomètre monte largement au-dessus des 35 degrés.
Au pic de la vague de chaleur, dans certaines cours d'école, comme ici, dans le Gard, la chaleur était telle que l'on pouvait faire cuire un œuf à même le sol. Lors de la canicule de 2019, les épreuves du brevet avaient dû être reportées. La chaleur peut également perturber et compromettre le fonctionnement des établissements de santé, les hôpitaux ou encore les EHPAD, qui ne sont pas conçus pour affronter des températures extrêmes. Des soignants racontent que dans de nombreux services, rien n'est prévu pour s'adapter à la chaleur. Pas de climatisation, de volets ou de ventilateurs. Il peut faire jusqu'à 32 degrés dans certaines chambres. Dans les EHPAD, seuls 13% des établissements disposent d'un dispositif de rafraîchissement thermique adapté, selon une enquête menée en 2023. Dans un communiqué publié début juillet 2025, le Syndicat national des personnels infirmiers, SNPI, alerte sur les vies qui sont mises en danger faute d'adaptation. Les plans canicule sont insuffisants, la mobilisation est souvent trop tardive, les moyens sont dérisoires et les solutions bricolées. On fait prendre des douches froides aux patients, on pose des linges humides, on met des blocs de glace devant des ventilateurs. Ce sont des expédients, pas une réponse adaptée, témoignent les soignants. Thierry Amourou, le porte-parole du SNPI, ajoute « L'État demande de protéger les plus vulnérables, mais sans débloquer les crédits nécessaires pour équiper les services, recruter du personnel ou financer des travaux urgents. » Dans les faits, les soignants restent seuls à improviser des solutions dans des conditions de plus en plus intenables.
Voilà pour cet extrait d'une longue émission de 20 minutes du Média Blast. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner ou de donner aux médias indépendants.
Et ça donne envie de vieillir.
Ça donne envie de vieillir et d'aller en EHPAD, on l'entend dans cette émission. Évidemment, je te fais réagir un petit peu, Aurélien. Donc, tu parlais tout à l'heure de se faire cuire un œuf sur des surfaces qui n'étaient pas faites pour ça.
Oui.
Voilà, c'est pour ça que je te disais que...
Là, on est dedans.
On est dedans, hein, voilà, sur le sol goudronné d'une rue ou d'une cour d'école. On oui. pouvait donc mettre une poêle et un œuf à cuire.
Et c'est le problème, c'est que beaucoup de bâti en France est beaucoup du bâti, enfin beaucoup du bâti en France est ancien. Quand je dis ancien, plus de 40 ans, hein, parce que clairement, les années 70-80, on peut pas dire que ça soit des références en termes d'architecture pour l'environnement et pour subir l'environnement. Et c'est vrai qu'on se retrouve maintenant avec l'été. Des maisons qui sont surchauffées, mais il y a encore maisons pour ceux qui ont le plus les moyens. La plupart vont subir un appartement dans ce qu'on peut appeler des cages à poules qui ont été parfois rénovées pour le froid, mais pas du tout pour le chaud. Et avec une impossibilité d'aérer, notamment, parce que c'est ça qui pose problème, c'est que beaucoup d'appartements sont sur qu'une façade d'immeuble et qui dit une façade dit pas peu de possibilités de faire des courants d'air le soir, et vous retrouvez avec des façades déjà qui sont en béton surchauffé, qui ont retenu de la chaleur toute la journée et qui vont la diffuser toute la nuit, et ouais, c'est clairement pas très agréable. Mais ça, on le retrouve aussi dans du vieux bâti, dans des vieilles maisons, notamment dans du centre-ville, où les maisons sont collées les unes aux autres et où il y a encore une fois très peu de moyens, parce que des appartements ont été construits dedans, mais le propriétaire a visé la rentabilité, ce qui est honorable aussi, hein, j'ai envie de dire, il faut vivre, hein, mais en visant la rentabilité, il a oublié de donner la possibilité aussi aux gens de faire des courants d'air. Et pour avoir habité dans certains de ces appartements-là, je peux vous dire que c'est vrai que l'été, c'est vraiment l'enfer. Et vous avez envie c'est de prendre une tente et d'aller dormir dehors.
Voilà donc pour cet été qui était remarquable à plus d'un titre, et donc il fallait prendre le temps d'analyser certains des événements qui s'y sont déroulés. On passe sur la partie automnale, plus calme, moins spectaculaire en termes d'événements. Il n'a fait ni trop chaud ni trop froid, mais la réalité est plus subtile que ça, puisque ça a beaucoup fait le yo-yo.
Voilà, c'est exactement ça en fait. On s'est souvent retrouvé avec 15 jours de douceur extrême, voire même de chaleur, j'ai presque envie de dire. Hein, parce que,
le mois de septembre avait encore été chaud.
Au mois de septembre, voilà. Et puis après, on se retrouvait avec 15 jours où il faisait beaucoup plus frais. Puis c'est revenu. Et ça s'est beaucoup vu notamment sur le mois de novembre, où on a eu littéralement un mois de novembre noir et blanc, c'est-à-dire 15 jours où il a fait froid, parce que là, c'est là où il a tombé de la neige. Il est tombé de la neige sur les massifs alpins, voire même quelques flocons sur certaines des régions centrales. Et puis, peu de temps après, une dizaine de jours après, on s'est retrouvé avec l'inverse, c'est-à-dire beaucoup de douceur, des températures qui, sur le mois de novembre, ont frôlé les 20 degrés quand même, et sur la deuxième partie du mois de novembre, de mémoire, donc qu'on frôlait les 20 degrés sur la région centre, ce qui est quand même exceptionnel. Hein. On aurait mis ça en parallèle avec des températures du mois de juillet, ça voudrait dire qu'on aurait largement dépassé les 40 degrés. Hein,
Si on les mettait en comparaison.
Pourtant, il n'y a pas eu de gros titres dans les médias pour dire attention, la canicule arrive au mois de novembre. On n'était pas dans une canicule, mais on était dans des températures qui étaient littéralement exceptionnelles et qui ont fait encore une fois beaucoup de mal à la végétation, parce que la végétation, elle n'a pas des yeux pour regarder le bulletin météo et de savoir à quel moment aller. Elle a voit de la douceur. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle sort ses bourgeons et elle se prépare pour le printemps. Sauf que on n'était même pas encore en hiver, et quand l'hiver arrive, les bourgeons souffrent énormément derrière. Donc on se retrouve avec de la végétation qui est beaucoup stressée par ça aussi, et qui va sortir de l'hiver là avec déjà des fragilités, donc ça ne va pas aider.
On a pu voir effectivement des premiers bourgeons réapparaître effectivement aux alentours de novembre. Effectivement, hein, comme je disais, donc les moyennes d'automne sont dans les normales de saison. Hein, en centre-Val de Loire, plus 0,3 degrés seulement au-dessus d'énormes. Oui. On est encore une fois dans cette marge d'acceptation des supérieurs. Et puis, ni un déficit, ni un excédent de pluie. On était à 0% au centre-Val de Loire, là où d'autres départements, par contre, pouvaient avoir, la Corse notamment, ou l'Occitanie, 25-40 degrés de pluie en moins, malgré tout.
Oui.
On arrive à ce mois de décembre qui a lancé l'hiver, qui a aussi, lui, comme septembre et novembre, fait un peu le yo-yo. Il a fait très doux début décembre, Et puis on s'est retrouvés tous à sortir le nez dehors un matin et à voir du givre sur nos voitures et sur nos vitres.
C'est exactement ça. Et en fait, le mois de décembre a été comme le mois de novembre, le mois noir et blanc, en fait, tout simplement. Et on a eu exactement le même schéma qu'au mois de novembre. Une période de blocage avec une forte douceur. Une période de blocage anticyclonique avec une forte fraîcheur, et les deux mélangés fait qu'on a une moyenne sur le mois qui est relativement normale. Mais par contre, ces blocages sont pas normaux, en fait, sur ces périodes hivernales là. En fait, on devrait faire une alternance entre certes un anticyclone et des perturbations, mais pas sur des périodes aussi longues que ça avec des blocages comme ça. C'est ça qui est complètement dingue. Donc là, bon, encore une fois, on va prendre les gens qui ne croient pas à ce réchauffement climatique, même si on n'est pas dans la croyance, mais les statistiques. Et eux vont dire, ah ben non, mais vous voyez, on a eu un hiver normal. Mais en fait, si on regarde bien les chiffres, non, on n'a pas eu un hiver normal. Et là, pour le coup, c'est pas que dans le petit village de Pépé, c'est aussi au niveau mondial. Et au niveau mondial, on a eu des zones dans le monde où on a eu des douceurs extraordinaires, comme des moments de grande fraîcheur. Sur la fin décembre, on a quand même eu... pour le coup, là, je prends la Sibérie ou l'Alaska, des zones à moins 45 degrés quand même, ce qui est assez exceptionnel.
Ça reste exceptionnel pour des zones polaires comme celles que tu viens de citer.
C'est polaire. Il a même fait, je crois, même plus de moins 50, enfin, moins de moins 50 degrés en Sibérie, ce qui est quand même... Et en parallèle de ça, on s'est retrouvé avec d'autres zones du monde où il faisait des fois plus 15, plus 20 degrés par rapport aux moyennes qu'il devrait faire sur ces régions-là. Donc en fait, on se retrouve avec des fortes disparités. Au lieu d'avoir un climat plutôt uniforme, on se retrouve avec ce phénomène de yo-yo, en fait, d'oscillation, qui est dur à tenir parce que la végétation, elle n'est pas faite pour ça. Et cette oscillation crée encore une fois beaucoup de stress, mais aussi bien sur la végétation que sur nous, les humains. Hein, c'est pareil, hein, parce que quand vous passez d'une forte douceur pendant une dizaine de jours où vous êtes quasiment en t-shirt à 22h à moins de novembre et qu'une semaine après il gèle, votre organisme, je peux te dire qu'il est
mis à...
Voilà, c'est ça, et vous vous retrouvez avec une jolie grippe qui vous fait encore moins de bien.
Pour continuer sur une image plutôt agréable malgré tout, on s'est réveillé avec de la neige le matin de Noël ici en Centre-Val de Loire et un peu partout en France d'ailleurs. Depuis quand il n'avait pas neigé à Noël en Centre-Val de Loire? Ça remonte
Noël, ça doit faire pas loin d'une dizaine d'années, je crois, facile.
Ouais.
Qu'il n'a pas neigé sur la région, ça fait l'année dernière, je crois qu'il est tombé quelques flocons, mais pas de phénomène significatif. L'hiver d'avant, c'était quasiment pareil. Ça fait quand même quelques années qu'on n'a pas eu. On n'a pas eu un mois de janvier avec de la neige qui tient comme là aujourd'hui, qui tient au sol et qui va tenir demain. Et en plus, demain, ils en annoncent encore de la neige. Donc, ça va faire quand même plusieurs années. Alors, peut-être pas depuis 2016-2018, mais ça fait 2-3 ans où on n'a pas eu un épisode neige significatif. Donc, tant mieux pour les enfants.
C'est ça.
Tant pis pour ceux qui ont les pneus lisses.
Tu me fais glisser justement vers un des aspects que je voulais voir avec toi, puisque les médias, ce sont le terme dans les médias, c'est répandu de vagues de froid.
Ouais.
Il faut le rappeler, ce n'est pas une vague de froid. Tous les météorologistes le rappellent et insistent là-dessus. Qu'est-ce qu'une vague de froid et pourquoi les médias ont parlé de vagues de froid, Aurélien?
En fait, ils confondent tout, mais en fait, c'est pas ils confondent tout. C'est que vous avez un directeur financier qui leur dit il nous faut du clic et le clic rapporte. Et en fait, vague de froid, tout de suite, ça vous rapporte de l'argent. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Hélas, aujourd'hui, dans les médias, ils ont besoin de gagner de l'argent pour payer toute la masse salariale et les actionnaires et tout ce qu'on veut.
C'est ça.
Et derrière, vous vous retrouvez avec une info qui est biaisée pour justement vous inciter à cliquer sur les liens que vous voyez dans les réseaux sociaux, les liens qui sont souvent commentés par des gens qui n'ont même pas cliqué sur le lien d'ailleurs, ce qui fait des situations des fois assez tordues. Mais en étant plus sérieux, la vague de froid, en fait, il faut qu'il y ait une température. Alors je crois qu'au niveau national, il faut que ça soit moins 2 degrés pendant au moins une journée, un truc comme ça. Mais on en est très loin. Mais même aujourd'hui, là, ce qui est sur la France avec la Côte d'Azur, du coup, on peut pas atteindre encore le niveau de vague de froid. Donc voilà, la vague de froid, c'est quelque chose qui devient, pour le coup, contrairement à la canicule, quelque chose de plus en plus exceptionnel, parce que ça devient dur de refroidir toute la France suffisamment pour atteindre ce niveau de vague de froid.
Et on en parle à chaque fois que tu viens, des fois à l'antenne et souvent hors antenne, hein, de se rapprocher des réseaux sociaux de Serge Zaka qui passe son temps. Donc il est agroclimatologue, c'est ça.
Ouais.
Merci Aurélien. Et qui passe son temps sur les réseaux sociaux à rectifier, corriger. Ça doit lui prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Les médias et les climato-sceptiques ou les climato-négationnistes, comme tu les appelles, pour justement corriger ce terme de vague de froid, puisqu'on en est très loin. Il le rappelle, j'ai vu un post de lui très récemment qui tentait encore une fois de convaincre qu'on n'était pas dans une vague de froid. Pourquoi, notamment, malgré tout, on n'est pas dans une vague de froid? On a l'impression qu'il fait un froid polaire. C'est parce que donc on n'est plus habitué à ces couches de neige qui durent. Est-ce que notre corps s'adapte à des chaleurs plus fortes et donc quand il fait un peu plus froid que d'habitude, on ressent, ou est-ce que notre cerveau oublie, ou les deux, mon capitaine?
Les deux, enfin ni l'un ni l'autre plutôt, en fait. On ne s'habitue pas à la chaleur ou peu, ou difficilement, parce que
c'est trop dur.
Et puis on n'est pas dans des climats tropicaux où il fait chaud toute l'année, donc notre corps joue aussi au yo-yo et c'est pas super bon. Aujourd'hui, là, sur la région centre, il fait quand même froid, voire très froid le matin. Là, à Châteaudun, ce matin, on a relevé presque moins 12 degrés. C'est quand même quelque chose qui est plutôt exceptionnel. Ouais. Bon, ça, c'est dû aussi à la neige et au fait que le ciel était dégagé. Donc, qui dit neige plus ciel dégagé, dit températures qui vont dégringoler généralement sous les moins 5, voire sous les moins 10.
Là, on se réveille en ce moment avec des moins 3, 4, 5, c'est ça?
Oui, voire même moins 7, moins 8, moins 9, voire moins 10, voire moins 11. Enfin, c'est des températures qui sont remarquables, qui sont froides. Donc, moi, je comprends que vous ayez froid le matin. Là, clairement, ce matin, vous sortiez dehors, notamment dans le nord de la région. Oui, il y avait vraiment de quoi frigorifier parce qu'il faisait pas loin de moins 10 degrés. Après, la journée, là, en ce moment, on peine difficilement à avoir la zone de dégel. Mais par contre, on n'est pas dans un froid extrême, en fait. Le froid extrême, c'est plus que des températures, c'est aussi généralement un vent derrière qui va vous frigorifier. Le vent de nord-nord-nord-est, ou un vent continental qui, lui, va vraiment rendre la masse d'air très, très inconfortable. Il faut savoir que plus le vent souffle et plus il fait froid, plus le ressenti. Des fois, vous avez une température de moins 4 degrés dehors à l'abri, mais vous exposez au vent, vous descendez à moins 15, moins 20 degrés. Donc voilà, là, le ressenti est différent. Mais là, il fait froid aujourd'hui parce que justement, tout simplement, là, il a neigé et que les minimales ce matin étaient quand même exceptionnelles.
Que retenir? On arrive sur la fin de l'émission, Aurélien.
Déjà.
C'est ça, ça passe très vite toujours. Que retenir donc de cette année? Vous aviez publié avec dans La Nouvelle République, qui vous avait interrogé en fin d'été, début à la rentrée, donc un petit bilan très rapide de l'été, donc plus chaud qu'en 1976. Alors moi, je n'étais pas né en 1976.
Moi non plus,
rassurez-vous. mais donc il disait que c'était une année quand même assez exceptionnelle pour l'été en Loire. Et puis donc un papier très récemment que tu as fait avec La Nouvelle République du Loir-et-Cher, où tu disais que finalement cette année était une année assez typique des dérèglements climatiques en cours.
En fait, le dérèglement climatique, c'est pas simplement une chaleur qui est uniforme et qui monte. En fait, on pousse pas la manette du gaz de la cuisine et ça fait pas monter la température comme ça. Ce qui se passe sur un réchauffement global climatique comme ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on va avoir des phénomènes qui vont être de plus en plus instables, on va dire.
On va avoir des phénomènes de yo-yo dont on a parlé, avec les températures très changeantes d'un coup à l'autre.
On va vraiment avoir une oscillation en fait, température, des phénomènes, etc. Et cette oscillation là, elle est de plus en plus forte. C'est comme si vous dérégliez votre roue de vélo, vous mettiez un gros poids au bout de votre roue de vélo, essayez de rouler avec, vous allez voir, ça va vous faire trembler le guidon plus qu'il faut et ça va surtout vous amener par terre. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe avec ce dérèglement climatique, c'est qu'en fait, tout simplement, on se retrouve avec des phénomènes qui sont de plus en plus violents, d'un côté comme de l'autre. Là, en ce moment, il fait quand même moins 40 degrés en Finlande et en Norvège. On parlait de la Norvège en tout début d'émission. Mais là, justement, il fait quand même moins 40 degrés là-bas. C'est des températures qui sont quand même aussi, même pour eux, exceptionnelles. Ils n'aiment pas vivre sur ces températures-là. C'est pas agréable pour personne. Et en fait, on se retrouve avec des minima de froid dans des zones du monde qui vont être très très forts. Et inversement, dans d'autres régions, on va se retrouver avec des extrêmes de chaleur qui vont être intenables. Et en fait, on se retrouve non pas avec un climat qui est uniforme, et encore quand je dis uniforme, qui est plutôt agréablement uniforme pour la faune et la flore, mais justement avec un climat qui joue le yo-yo, qui est jamais vraiment stable et qui apporte des gros extrêmes, que ça soit des extrêmes, là on l'a vu, bah, si on doit résumer 2025 en France, sur la région centre, voire sur le Loir-et-Cher, c'est tout simplement ce qui s'est passé ce 25 juin. Ce 25 juin, on a commencé la journée avec un ciel bleu, une chaleur qui était déjà insupportable. À midi, c'était l'enfer et on avait des champs qui brûlaient un peu partout sur le département. À 16h, le ciel commençait à se voiler et tout le monde était en train de cuire, le taux d'humidité était en train de monter. Et à 19h, l'apocalypse était passée sur la région et on avait des poteaux électriques qui n'étaient même pas tombés avec les tempêtes de 99 et qui ont été arrachés par le vent comme des fétus de paille en quelques secondes sur les communes de Mulsan et dans la Beauce. Là. Donc c'est vraiment ce type de phénomène en fait, qui va se généraliser notamment sur nos latitudes et qui vont entraîner vraiment cet inconfort en fait, parce que nous on a quand même l'habitude de ne pas vivre dans des températures extrêmes d'un côté comme de l'autre, et c'est ça qui va rendre la vie plus désagréable.
Je me souviens de mes cours d'histoire géographie quand j'étais jeune qui parlaient de la France comme d'un climat tempéré.
C'est fini.
C'est bien ce que tu peux me confirmer. C'est toujours passionnant de discuter avec toi, Aurélien, et donc le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Donc on parlera de ce début janvier, neigeux, comme on a pu en parler un petit peu, mais pas exceptionnel. On le rappelle, nous ne sommes pas en train de traverser une vague de froid, messieurs dames. Voilà,
c'est dit.
Merci beaucoup, Aurélien, et bonne année à toi et à Météo Centre, et à l'année prochaine, effectivement. C'est la fin de cette lorgnette. Vous pouvez évidemment la retrouver en podcast avec le lien vers l'émission complète de la recommandation. Donc cette émission de Blast. À 18h, c'est la Roxette avec l'ami Christophe. Je vous souhaite encore à toutes et à tous une excellente année, et notamment sur Studio Zef. Salut à tous et à toutes.